France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous commençons cette nouvelle année ecclésiastique, mais radiophonique aussi, avec une émission sur quelques écrits de Nicolas Velimirovitch, évêque serbe mort en 1956, dont la sainteté a été proclamée en 2003. Ces textes ont fait l'objet d'une édition dans une traduction française aux éditions des Sirtes, sous le titre « Pensées sur le bien et le mal », suivi de « Leçons spirituelles ». Pour en parler, nous recevons Lyubomir Mikhailovitch, responsable de la traduction française de cet ouvrage. Lyubomir, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que nous évoquons ensemble la vie et l'œuvre de Saint Nicolas Velimirovitch, mais rappelons tout de même, pour commencer, quelques éléments biographiques, de manière brève évidemment, mais faisons-le, de cette grande figure orthodoxe du XXe siècle.
Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité, justement pour parler de Saint Nicolas Velimirovitch, qui, à mon sens, était un esprit universel, issu d'une famille serbe de l'ouest de la Serbie, brillant élève. Il soutient deux thèses de doctorat, l'une en théologie d'abord à Berne en Suisse, l'autre en philosophie qu'il a préparée à Oxford. Il est né en 1880, il naîtra au ciel en 1956. Il fut d'abord un évêque, il est nommé au lendemain de la Grande Guerre. Ce fut un grand organisateur de son diocèse. Mais évêque, il fut aussi un missionnaire du Christ, c'est-à-dire le créateur d'un mouvement charismatique original, le mouvement des Bogomolci, ceux qui prient Dieu, qui se traduisait par la réunion régulière d'assemblées générales, d'assemblées du peuple populaire, où tout le monde pouvait dire sa foi en Christ de la façon la plus ouverte possible. Évêque, missionnaire du Christ, il fut aussi un témoin du Christ, à travers son œuvre, car il a laissé une œuvre très protéiforme. C'était un théologien, un écrivain, un poète, et on peut rappeler certains titres, peut-être, le prologue d'Orchide, les homélies sur les dimanches des jours de fête, prière au bord du lac, sermon au pied de la montagne, et lettres missionnaires, et aussi la vie de Saint Sava, qu'il a écrite en anglais en 1951 à l'âge de 71 ans. Opposant de toutes les dictatures, il fut interné par les nazis dès l'arrivée des nazis en 1941 en Serbie, interné puis déporté à Dachau avec le patriarche serbe, puis il partit en exil aux États-Unis où il mourut en 1956. Il fut canonisé, comme vous l'avez dit, en 2003.
Son nom est lié aussi à certains lieux, au lieu de l'orthodoxie serbe, peut-être le monastère, on peut dire deux mots de Žiča.
De Žiča, oui, bien sûr, puisque le monastère de Žiča, ça a été le lieu fondateur, le siège du premier archevêché serbe en 1219, créé par Saint Sava, premier archevêque serbe d'une église autocéphale. Mais le Saint Nicolas était un esprit universel. Il était, j'allais dire, le père spirituel de tous et de tous. Au fond, il me rappelle une phrase d'un grand poète métropolite du Monténégro, Njegoš, qui a dit « Le prochain est mon frère, quelle que soit sa foi ». Eh bien, Saint Nicolas Velimirovitch mettait ça en pratique tous les jours et dans ses écrits. Et peut-être pourrait-on dire un mot de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui.
Tout à fait, qui réunit plusieurs textes d'ailleurs.
Absolument.
Oui, mais vous y avez vu des lignes, des idées tout à fait communes.
Alors, pourquoi cet ouvrage qui réunit trois textes, en fait, les pensées sur le bien et le mal qu'il a écrites en 1923, puis les leçons spirituelles, c'est-à-dire l'ABC de la vérité et l'ABC de la victoire, qu'il a écrites entre 1918 et 1938. Ce sont des réflexions spirituelles, mais ce qui donne un caractère très particulier à cet ensemble de trois textes, c'est la cohérence de ces trois textes et le caractère lumineux de ces textes. La cohérence d'abord, pour dire en un mot, quel est le point commun entre ces trois textes? Eh bien, les pensées sur le bien et le mal, ça a pour but de discerner, de cerner, de déjouer le mal et de nous montrer comment accéder au bien. Et accéder au bien, c'est nous conduire vers le Christ, nous permettre de vivre en Christ, c'est l'objet de l'ABC de la vérité, et vivre en Christ, C'est la voie qui nous conduit vers la lumière divine, nous approche de Dieu et de la vie éternelle, c'est l'ABC de la victoire. Tout est cohérent, tout se complète, tout est lumineux.
Très belle introduction à l'ensemble de ces textes. Alors peut-être il faut expliquer quels sont les textes qu'il y a là-dedans, parce que on a deux titres, j'allais dire, différents. Penser sur le bien et le mal, et de l'autre côté, leçon spirituelle.
Oui.
Et les leçons spirituelles, c'est deux ensembles.
Absolument, qui viennent après, à la suite des pensées sur le bien et le mal. Donc le texte principal, c'est les pensées sur le bien et le mal. Au fond, l'aide cherche, ça a été écrit en 1923, l'auteur aide le lecteur à progresser dans la compréhension du sens de la vie et du monde qui l'entoure. Et l'art de Saint-Nicolas Velimirović, il n'a que 43 ans à peine quand il écrit ses textes en 1923, il nous montre en quelques formules saisissantes toute la problématique qu'il va développer. Il dit par exemple que l'athée est son propre bourreau. L'homme qui se détourne de Dieu va à sa propre déchéance. Par ailleurs, les soi-disant esprits forts, qui sont plongés dans les ténèbres de l'égoïsme et de l'orgueil, peuvent, s'ils rencontrent la lumière divine, devenir une source de joie pour autrui. C'est magnifique, on passe des ténèbres vers la joie, mais pas seulement vers la joie pour soi-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Car Dieu est au centre de tout. On n'échappe pas à Dieu, dit-il. C'est en vain qu'on fuit Dieu, dont on ne peut se cacher. Dieu ne t'attendra pas seulement à l'endroit où tu l'avais laissé, mais sur tous les chemins et tous les recoins du monde. Fondamentalement, Saint Nicolas est un optimiste. La mort n'est pas un point, dit-il, mais une virgule de notre vie, après laquelle nous aurons une feuille blanche où on écrira non plus avec du sang et des larmes comme durant notre parcours terrestre, mais avec les rayons dorés de la lumière et de la joie divine. C'est un théologien, c'est un écrivain et c'est un poète qui s'exprime.
Et il est, j'allais dire, aussi moderne, si je puis dire, parce que vous avez souligné, là, dans la préparation que nous avons faite de cette émission, ses idées et son amour pour la nature, son respect aussi pour la nature. Donc, vous dites qu'il est écologiste, parce qu'en effet, il parle beaucoup de ça. Alors, je lis un extrait de ce qu'il a écrit sur la nature. « La nature est une amie, non une ennemie. Elle a été créée pour être une amie et une aide pour l'homme, non une esclave et un bourreau. » Et un peu plus loin, « Les peuples qui ont déclaré la guerre à mort à la nature et qui ont inventé et appliqué impitoyablement la devise brutale de l'exploitation de la nature, et c'est très actuel tout ça, ont attiré sur eux et subissent des malheurs innombrables. » Donc on voit quelqu'un qui sent vraiment la création de Dieu, si vous voulez, comme un don, et pas évidemment comme ce que la théologie dit d'ailleurs, et pas du tout comme un moyen pour s'enrichir, quel qu'en soit le prix. Alors, c'est peut-être le moment pour aller dans l'église et prier, et on le fait évidemment dans un lieu de prière orthodoxe serbe, monastère de Chilandar au mont Athos, haut lieu de la spiritualité orthodoxe serbe, et ce sont les moines de ce monastère qui chantent. Avec ce chant des moines du monastère de Chilandar au mont Athos, qui chantent en serbe, un extrait de la liturgie orthodoxe, nous revenons à notre entretien avec Ljubomir Mihailović sur le livre paru récemment, qui contient des textes de Saint Nicolas Velimirović, évêque serbe donc du XXe siècle. Titre du livre « Pensée sur le bien et le mal » suivi de leçons spirituelles. Nous étions en train, cher Lyubomir Mihailovic, de voir un peu les idées générales de Nicolas Velimirovitch, grand théologien en même temps, et très ouvert, comme vous avez dit, un esprit très écuménique, très universel. On va prendre une notion maintenant qui est toujours très délicate. Et comment aborde-t-il le péché ?
Ce qui est merveilleux avec Saint-Nicolas, c'est que ce qui paraît complexe, difficile à saisir avec d'autres, devient facile et lumineux avec lui. Quand il parle du péché, évidemment, c'est pour nous détourner du péché. Pour lui, qu'est-ce que c'est le péché ? C'est au moins trois choses. Mais c'est toujours des formules courtes qui vont... C'est aussi en cela qu'il est moderne, si vous voulez. Il ne cherche pas à faire de longs développements. Il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup mûri, et il prend le lecteur comme un ami à qui il faut donner un vade-mecum utilitaire pour la vie. Qu'est-ce que c'est le péché ? C'est le microbe de l'âme. Un seul péché, dit-il, suffit à renverser l'homme le plus puissant. Comme un seul et unique ver s'insinue sous l'écorce du chêne le plus puissant. Un péché commis il y a 40 ans te poursuit matin et soir. Le premier fruit du péché, c'est un péché plus grand. Le premier né d'Ève désobéissante, ce fut Caïn, le fratricide. Péché de l'âme, mais chaque péché, c'est aussi une flèche contre Dieu. Quand tu mens à Dieu. Quand tu voles Dieu. Quand tu renies la vie, tu renies Dieu. Et puis le péché, c'est la nourriture de la mort. La mort ne peut pas être détruite tant que le péché n'est pas détruit. Dieu est la cible de tous les péchés. Mais qui peut pardonner ? Sinon celui à qui l'insulte a été faite, Dieu seul peut pardonner les péchés.
En effet, c'est une très bonne leçon à la fois de théologie et de pastorale, parce qu'on voit aussi l'approche humaine de cet évêque. Est-ce qu'il est toujours, son souvenir, toujours très, très vif en Serbie ?
Ah, il est extrêmement vif, il est très présent. Son principal disciple, c'est Saint Justin Popovic, Saint Justin du monastère de Ćelije, qui est né au ciel le jour de l'Annonciation en 1979, et qui a laissé derrière lui, donc les petits-fils de Saint Nicolas sont innombrables. Il y a eu 3, 4, 5 évêques, l'évêque Athanase, le métropolite Amphiloque, l'évêque Irénée Boulovitch, dont le fils spirituel est le patriarche actuel, le patriarche Porphyre. Donc on peut dire que le patriarche Porphyre, qui est né en 1961, est le... l'arrière-petit-fils spirituel de Saint Nicolas Velimirovitch.
Voilà, toute une école, donc.
Toute une école qui est très vivante, très active, voilà. Si vous voulez, et très, très quotidienne.
Ça, c'est très important. Ça veut dire une hiérarchie proche des gens et de leurs préoccupations aussi, et de leurs problèmes.
Absolument.
Et de leurs problèmes. Vous avez dit tout à l'heure, c'est un optimiste au fond. Hein, c'est
pas... Oui.
Et ça, c'est très important. Alors, je prends un extrait que vous m'avez indiqué, mais qui en fait est très fort. C'est toujours un extrait des pensées sur le bien et le mal. Soyez joyeux dans l'espérance. Ça, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Romains.
Oui. Ah oui, ça c'est très important. Si vous voulez, si on devait résumer sa pensée dans ces trois textes, je dirais que c'est un apôtre, j'allais dire, de la victoire par la pensée, peut-être. Il faut commencer par là. Parce que même si on ne commet aucune mauvaise action avec son corps, et que on est de mauvaises pensées, eh bien, on est impur et même répugnant, dit-il, devant Dieu. Purifie donc, dit-il à son lecteur, purifie donc ton âme des mauvaises pensées et tu seras un grand vainqueur. C'est l'ABC de la victoire. Et tu recevras une couronne de gloire du Christ vainqueur. Purification, mais aussi espérance, car cet optimiste est évidemment pétri d'espérance. Soyez joyeux dans l'espérance. Celui qui a de l'espoir triomphe. L'espoir, et cette formule est absolument extraordinaire. L'espérance, dit-il, est une veilleuse dans les ténèbres des tourments. Espère le bien, et le bien ne manquera pas d'arriver. L'espérance, ajoute-t-il, est une échelle qui relie ton âme au ciel. c'est sur cette échelle que la victoire et le salut te viendront. Mais pour y arriver, pour acquérir pleinement cette espérance, pour être sur cette échelle, il faut se vider. Il cite le psalmiste, « Rendez-vous vide et glorifiez le Seigneur. Vide ton âme des pensées rabougries, des désirs rances, des sentiments mesquins de méchanceté, de perfidie, et offre ainsi ton âme au Seigneur, et il la remplira de son esprit. » Se dépouiller de soi-même, s'abandonner à Dieu, laisse Dieu faire ce qu'il veut et il établira son trône dans ton âme. Si vous voulez, théologien, il ne cesse jamais d'être poète et il ne cesse jamais d'avoir cette foi chevillée au corps, cette veilleuse allumée dans les ténèbres qui est certaine, qui sait qu'au bout des ténèbres, au bout du tunnel, il y a la lumière de Pâques, le tombeau est vide, Christ est ressuscité.
Ce qui est évidemment toujours le condensé du message de tous les grands théologiens. On est toujours là parce que c'est le message central, évidemment, de la foi chrétienne. Alors, ce que je voulais, puisque vous connaissez si bien son œuvre, vous avez traduit, je pense, oui, à peu près la quasi-totalité de ce qu'il a écrit.
J'ai fait de mon mieux et son œuvre est inépuisable. Vous savez, c'est un homme qui était d'une générosité extraordinaire. J'ai une petite anecdote personnelle mais qui m'a été racontée par celui à qui c'est arrivé. Il était en exil, dans des conditions matérielles très difficiles. Et un jour, une veuve, seule avec deux enfants, 14 et 12 ans, lui écrit pour lui demander conseil, pour lui demander de l'aide. Et il lui dit, écoutez, je ne peux rien faire, je connais certaines pas mal de difficultés, je ne peux rien faire, sinon composer une prière. Et il compose une prière spécialement pour cette famille qui figure maintenant dans ses œuvres complètes. Sa générosité, qu'on retrouve par exemple dans les lettres missionnaires, il est le même qu'il soit reçu par le roi George V d'Angleterre pendant la Grande Guerre ou qu'il s'adresse aux paysans ou à l'ouvrier lors d'une de ces assemblées charismatiques qu'il avait organisées. Il est le même, il est vrai. Il parle toujours en vérité comme tout chrétien doit le faire parce qu'on gagne beaucoup de temps quand on parle en vérité. En fait, ce livre, ces trois petits textes, il s'adresse, je dirais, aux jeunes comme aux vieux. Aux jeunes, j'ai eu l'occasion d'ouvrir le livre au hasard, comme ça, c'est une confidence personnelle que je me permets de faire, à des jeunes qui préparaient des concours très difficiles. Eh bien, en lisant deux, trois phrases de ce livre, j'ai senti une certaine sérénité revenir dans leur cœur, dans leur esprit. De même, je connais des personnes beaucoup plus âgées qui se posent des questions sans cesse. Je crois, mais il ne faut pas se poser des questions. Il suffit d'ouvrir ce livre, par exemple, d'ouvrir une page au hasard, et les doutes s'évanouissent. S'évanouissent parce que la lumière est là, la veilleuse est dans les ténèbres, mais au bout du tunnel, il y a une lumière, et c'est celle du Christ.
Alors, il a été très prolixe quand même. Il y a plusieurs livres, comme vous avez dit tout à l'heure. Et heureusement, en tout cas pour la plupart, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des textes qui sont pas traduits en français ?
Oui, il y en a encore.
Il y en a encore, voilà. Oui. Mais il y a déjà pas mal. Alors, dans tout ce que vous existez et que vous connaissez, par quoi faut-il commencer pour le lire ? C'est vraiment au hasard, on ouvre, peu importe où on est. Mais...
Moi, je commencerai par la vie de Saint Sava, qu'il a écrite en anglais en 1951. Il a 71 ans et il veut faire connaître la vie de Saint Sava à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Saint Sava. C'est un conte pour adultes et pour tous les autres. En petits chapitres très courts, il fait découvrir le merveilleux et il fait accéder au divin. Et puis, pour des gens qui veulent en connaître un peu plus, il y a évidemment les homélies sur l'évangile pour les dimanches et jours de fête, une soixantaine d'homélies, des textes extrêmement serrés. Je connais des gens qui les relisent chaque année. Et puis le prologue d'Ohrid, qui est un synaxaire et des réflexions spirituelles pour chaque jour de l'année, ce qui est extraordinaire. Et puis les lettres missionnaires, où il répond aux questions les plus extravagantes de ses interlocuteurs, qu'ils fussent premier ministre, ouvrier ou simple paysan, ou mère de famille, qui lui demande d'imaginer un conte de Noël pour leur fils, et il le fait.
Est-ce que vous pensez que ces textes, ces écrits demande une préparation théologique ou autre, je ne sais pas, pastorale, quelque chose, catéchétique, quelque chose comme ça?
Non.
Ou c'est donné à tout le monde?
Mais c'est donné à tout le monde. C'est quand il a créé le mouvement des Bogomolsi, ceux qui prient à Dieu, le Christ s'adressait à tout le monde, sans distinction. Eh bien, toute proportion gardée, quand il écrit les sermons au pied de la montagne, il s'adresse à tous et à toutes, sans aucune distinction. Voyez, regardez, écoutez, et vous verrez, et c'est ce qu'on vous souhaite.
Une dernière question concernant sa vie et ses écrits. Il a tellement écrit, alors il passait, est-ce qu'on connaît un peu sa vie? Il passait tellement de temps devant sa table d'écriture, comment se fait-il que quelqu'un qui a une telle activité pastorale, en même temps, ait pu produire un si grand nombre de textes?
Ben, je crois qu'il écrivait sous l'œil de Dieu. Je crois qu'il était inspiré par le Saint-Esprit, auquel il était très attaché. Et je crois que le bon Dieu a reconnu un disciple. Et il l'a laissé développer son œuvre en vérité.
Bah écoutez, on va finir avec cette belle phrase. Et puis évidemment, il faudra lire et relire les écrits de Nicolas Velimirovitch. Je rappelle l'évêque serbe, dont la sainteté a été reconnue en 2003. Et dont nous trouvons une grande partie des écrits grâce à vos traductions, Ljubomir Mihailovic. Vous avez donc, avec votre épouse Geneviève, traduit cet ouvrage qui vient de paraître, Pensées sur le bien et le mal, suivi de leçons spirituelles aux éditions des Sirtes 2025. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Cédric Châtelu. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solael au rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.